Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans Super Laser Punch. On le prononce à l'anglaise ou à la française, Johan? Super Laser Punch?
Laser Punch.
Ou alors, non, attends, j'ai une super bonne idée. On le prononce à la japonaise. Super Laser Punch! Non, c'est pas tout à fait. On parle de Marvel et du MCU et bah parfois d'autres choses éventuellement, mais là on est en plein dans WandaVision, Johan et moi je suis Patrick. Bonjour à tous. Et on est complètement overhypé par le MCU, ça y est, il est revenu. T'es comme moi? Tu t'en peux plus? Tu veux en parler?
J'ai pas compté le nombre de mois qu'il y a eu depuis la dernière apparition du MCU.
16 mois, 12 jours, ouais. 48 heures, et non, je sais pas, mais on est à peu près genre un an et demi presque, ouais.
Ouais, on pouvait dire que c'était trop avancé, on parlait presque de Marvel fatigue pour certains, etc., mais en fait, non, c'est...
Ouais, on
là,
était.
Ça faisait trop longtemps et puis je suis très content de reprendre tout ça et puis vu le programme sur l'année de Marvel, ça va pas arrêter.
C'est l'une des raisons pour lesquelles on s'est dit on va faire ce podcast parce qu'on a envie d'en parler. Bon, nous on est clairement des Marvel zombies, hein, on est des fans et on parlera de nous et des raisons pour lesquelles on a lancé cette émission à la fin de cet épisode. C'est des épisodes assez courts, on espère, et qu'on fera chaque semaine parce que maintenant chaque semaine il va y avoir un nouvel épisode de un truc du MCU, d'une série télé, et puis il y a les films qui vont revenir aussi. Et on a prévu de faire des débriefs de chaque épisode, de geeker, de se hyper l'un et l'autre. Et c'est marrant que tu dises que y avait des gens qui avaient un petit peu de Marvel fatigue. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui étaient un petit peu fatigués de, entre guillemets, la formule. Ce qui, bon, on parlera du MCU un jour, mais je trouve que la formule, c'est clair qu'il y a des éléments communs, mais il y a aussi des choses qui sont assez différentes d'un film à l'autre. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont cassé tous les codes avec cette série WandaVision. Et c'est plutôt pour le meilleur. Donc, on s'est réhypé avec ces trois premiers épisodes qui sont passés, ces quatre premiers épisodes, et on voulait en parler.
Exactement.
Donc, on va se présenter après la fin de notre retour sur les premiers épisodes, mais ce qu'on va faire dans ce premier Super Laser Punch, et d'ailleurs, j'aime pas trop dire genre Marvelcast ou le podcast des trucs moi j'aime bien les noms un petit peu débiles comme ça, Super Laser Punch, j'espère que ça désarçonnera pas.
Et en plus,
Merci. Si en plus un jour on veut parler de genre de Star Wars, parce qu'on est aussi hypé par The Mandalorian et d'autres trucs du genre, on pourra parce qu'il y a laser dans le nom. Donc tu vois, c'est comme sabre laser. Donc, ce qu'on va faire dans ce premier épisode, c'est qu'on va parler des trois premiers épisodes de WandaVision qui vont assez bien ensemble. On fera, j'espère, un deuxième épisode très vite, genre demain si vous écoutez à la sortie, avec le quatrième épisode. Et puis après, tous les lundis, on va débriefer l'épisode de la semaine précédente. Puis on verra s'il y a des trous, s'il y a des trucs qu'on veut faire en plus, mais on va découvrir ce qu'est le podcast avec vous. Mais pour le moment, on va débriefer, ou de manière un petit peu rapide, parce que c'est des épisodes que vous avez tous déjà vus, j'en suis sûr. On va débriefer les trois premiers épisodes. Et je veux dire un mot sur notre politique de spoiler, Johan, que j'impose à l'émission, parce que c'est moi le chef, qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les spoilers. Mais moi, je suis... disons qu'on parle des trucs qui ont déjà été diffusés. Pour les trailers, je sais pas, toi, tu as l'habitude de regarder tous les trailers de tout, non?
Ouais. Moi, je regarde tous les trailers, mais bon.
Tu vas accepter de ne pas trop parler. On verra des trailers dont on parle pas, mais...
Mais effectivement, je trouve que c'est pas très fair play, en fait, de parler des trailers, parce que y a clairement des éléments qui vont parfois beaucoup plus loin que que là où on en est. Et en plus, avec Disney+, là, j'ai l'impression qu'ils mettent des nouveaux trailers tous les jours quasiment.
Ouais.
ils montrent de plus en plus de choses. Et peut-être que même moi, je vais arrêter de trop regarder les trailers.
Mais... Ouais. En fait, moi, généralement, ma politique, c'est que pour les films, je regarde pas les trailers du tout. Donc, j'arrive complètement vierge, comme un oiseau, un oisillon, un poussin qui sort de son œuf. Et je suis généralement assez surpris par certains trucs. Pour les séries télé, je me dis, je regarde un ou deux trailers avant qu'elles arrivent, parce que les séries, c'est tellement plus long qu'ils peuvent faire des trailers sans trop révéler, mais je regarde pas les trailers de mi-saison, j'ai regardé seulement avant que la saison commence. Et là, c'est toutes les semaines qu'on peut voir les épisodes, donc pas besoin des trailers. Mais donc, en gros, dans l'émission, on parlera que des trucs qui ont déjà été diffusés, les épisodes ou les films, et pas les trailers de trucs qui arrivent plus tard, je pense. À part peut-être, bon, on préviendra si on le fait. Donc, WandaVision. C'est une série, la première série officielle du MCU, qui est diffusée sur Disney+, vous le savez bien sûr. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui est important, c'est qu'elle a été créée par Jack Schaefer, qui est une réalisatrice, producteur, enfin c'est une showrunner là, qui avait pas vraiment fait grand-chose d'autre. Elle avait écrit un petit peu sur Captain Marvel, elle a co-écrit Black Widow, mais c'est une jeune du MCU, donc ils commencent à renouveler un petit peu, ils amènent du sang neuf, et Matt Charman est le réalisateur, ils amènent du sang neuf, et ça pourra peut-être se retrouver dans les films d'après, mais c'est plutôt pas mal, parce que la série, elle est hyper différente et hyper bizarre. Je pense que tout le monde s'accorde à dire que ils n'ont pas suivi la formule, quoi. Qu'est-ce que t'as pensé au premier abord de la série quand t'as vu le premier épisode ?
Bah alors déjà effectivement, j'avais vu les bandes annonces et effectivement ce choix qu'ils ont fait d'intégrer ça dans une, on va dire, je sais pas si on peut dire une parodie, c'est pas vraiment une parodie, mais en tout cas dans un style vieille série, donc années 50, 60. 70, etc. Moi, ça, c'est vraiment un truc qui m'a tout de suite plu. Enfin, j'étais un peu conquis d'avance sur ce truc-là. Il y avait vraiment une sensation de tenter quelque chose du coup, qui n'existe pas du tout dans le MCU. Et on sent vraiment complètement une volonté d'essayer de faire un truc plutôt différent. Parce que du coup, je parlais de Marvel Fatigue tout à l'heure. Moi, je l'avais un petit peu quand même, hein, même si je continue à adorer, mais... Et là, c'est vraiment ce que j'attends, en fait. C'est vraiment ce que j'attendais en termes de renouvellement. Donc, moi, je suis vraiment super comblé de ce point de vue-là. Alors, ça reste très étrange néanmoins. Hein. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe exactement, puisqu'on avait du coup laissé on avait laissé Wanda relativement bien, mais en deuil à la fin du dernier Avenger, et puis tout d'un coup, surtout Vision est là, qu'est-ce qui se passe, et surtout, dans ce cadre-là, c'est un afflux de questions qui arrive forcément dans ce démarrage de cette série, quoi.
Et qui excite en plus tous les fans qui se sont posés 1000 questions pendant 3 semaines. Est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est le meilleur du fan service, ce genre de truc? Mais c'est marrant parce que moi j'ai entendu plusieurs avis de personnes qui disaient mais c'est chiant, c'est juste c'est 95% de séries des années 60, de sitcoms des années 50 et 60. Et ils ont pas tort, mais en même temps, il y a tous ces petits trucs à côté. D'une part, de toute la série, parce que c'est pas juste une série des années 50 ou 60, c'est vraiment une série créée par Wanda, enfin ce qu'on imagine en tout cas, où ils essayent de passer inaperçus alors qu'ils sont vraiment Wanda et Vision. Il y a plein de petites références dans l'épisode numéro 1, à des caractéristiques qu'ils ont, le fait qu'ils font de la magie, le fait que, je me souviens d'une en particulier, quand le boss, Monsieur Hart, dit à Vision, mais en anglais, c'est « you're a little bit dense, aren't you ?» Donc, t'es un peu dense, ce qui veut dire t'es un peu bête en anglais. Mais bien sûr, il peut changer la densité de son corps, de la matière de son corps. Donc, évidemment, ça... Et il y a plein de petites références. Et je pensais que c'était tellement particulier que seuls les vrais grands fans de Marvel qui comprendraient toutes ces références apprécieraient. Mais il y a eu aussi beaucoup de gens qui étaient fatigués de la formule, qui sont rentrés dans la série, et des gens qui sont un petit peu... qui prennent les choses de haut, qui ont apprécié ce pari de quelque chose de vraiment différent et qui trouvent que c'est une expérience réussie, alors que vraiment, c'était pas gagné du tout, quoi. Je voudrais te demander...
Ouais.
Vas-y.
Non, non, mais j'allais dire effectivement sur les références, c'est que alors je suis pas du tout un fanatique des comics, etc. Mais quand on regarde un peu sur le net les gens qui trouvent tous les easter eggs, toutes les références et tout, il y a quand même des choses super pointues à base de numéros qui font référence à des numéros de comics qui ont une importance pour Vision ou pour
ouais.
Vision, etc.
Ce genre de truc, je t'avoue que c'est le genre de truc qui me parle beaucoup moins, tu vois, ça va tellement dans le... Et puis il y a même des spéculations, parfois ils disent « Oh mais là, il y a un morceau d'oreille qui a une forme de, de
enfin, vêtement... » Évidemment que ça va trop loin, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui sont clairement volontaires, et même moi, si ça ne me parle pas non plus, j'aime bien, quand je regarde les gens qui récupèrent un peu ces références-là, de voir à quel point ils sont aussi minutieux à l'attention de ces gens qui sont là pour chercher des choses, etc. Il y a quand même une, on va dire, une profondeur dans certains détails que tu penses anodins, mais qui ont une signification pour d'autres fans, etc. Quoi.
C'est vrai.
Et je trouve ça assez impressionnant, particulièrement sur VandaVision.
La manière dont ils ont fait la chose, c'est qu'ils ont un petit peu mélangé deux séries célèbres du MCU, House of M d'une part, et Vision d'autre part, qui est une série beaucoup plus récente. Et moi, je suis pas un super grand fan des comics, j'en lisais beaucoup quand j'étais très jeune, et puis j'ai relu un petit peu ici et là depuis que j'ai un iPad, en fait c'est tout bête, mais ça veut dire que je peux me procurer les comics assez facilement, donc depuis une dizaine d'années, et puis quand je suis rentré dans le MCU évidemment. Mais c'est vrai que je fais pas partie des malades de Marvel qui connaissent chaque série, chaque histoire, parce que c'est toujours hyper compliqué. Mais j'en ai lu pas mal depuis que le MCU est revenu. Mais j'aimerais te poser une question. Quel est le moment, on va parler des trois premiers épisodes, le moment de chaque épisode qui t'a le plus plu ou le plus marqué? Si on parle du premier, tiens, quel est le moment que tu retiens?
Alors moi, le moment qui m'a mis vraiment les frissons, c'est évidemment le moment du dîner où,
évidemment.
Où il y a le bug dans la matrice, hein, où qui devient enfin une ambiance tout à fait anxiogène qui s'installe tout d'un coup, alors qu'on est normalement dans une série très légère avec des blagues très très légères aussi. Et puis tout d'un coup, tout devient très sérieux avec Monsieur Hart qui s'étouffe et personne ne fait rien et sa femme qui rigole sans s'arrêter, etc. C'est là où tu te dis ça, ils vont pas laisser trop traîner on va dire l'aspect série, ils vont amener, on se doute qu'ils vont amener ce genre de choses là de plus en plus et que on va finir par avoir quelque chose qui va se briser et on va revenir, on va dire, dans le MCU qu'on connaît.
C'est vrai que moi, ce qui m'a... C'est pareil, hein, c'est évidemment le moment qu'on retient dans ce premier épisode, parce qu'ils installent vraiment une ambiance qui est sur 20 ou 25 minutes d'épisode, qui est légère, qui est sympa, qui est intéressante si on est fan, mais qui se donne son propre style. Et quand ce truc se produit, ça vient assez lentement en plus. Ça doit durer la scène peut-être, je sais pas, une minute maximum. Mais pendant les 15 premières secondes, tu dis « Oh bah, il est en train de s'étouffer, ils vont faire quelque chose. » Et ils allongent le truc. Tu vois, la scène traîne en longueur. Et la femme qui répète « Oh, stop ! Oh, stop !» Et elle dit deux fois et tu dis « Bon, elle va se rendre compte. » Mais elle ne se rend pas compte et ça continue et ça met vraiment mal à l'aise, quoi. Moi, en le regardant, je me disais, mais j'étais mal. Et tu vois le visage d'Elisabeth Olsen qui se ferme et qui commence à devenir sérieux. Et c'est là que tu te rends compte que... Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure actrice de la Terre, mais en tout cas, le contraste entre l'ensemble de l'épisode et le moment dans cette scène où elle commence à se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas et où elle enlève son habit de femme au foyer des années 50 et elle commence à redevenir Wanda Maximoff et elle se dit « Oh merde, là, il y a un truc qui ne va pas. » Et dans cette minute de jeu d'acteur et de réalisation, il y a tout qui s'installe. C'est vraiment, pour le coup, un truc... Alors bon, là encore, comme ce n'est pas la meilleure actrice de la Terre, peut-être ce n'est pas la meilleure scène du monde, mais c'est clairement une scène qui est... conçu avec intelligence, avec des intentions, et ils savaient ce qu'ils allaient faire du début à la fin du truc. Et j'ai trouvé cette scène vraiment magnifique, quoi.
Et l'importance de cette scène, l'efficacité de cette scène dépend complètement du fait de l'aspect série télé très légère qui est installée les 15 minutes avant. Enfin, pour moi, c'est pour ça on parlait de gens qui pouvaient être déçus du style, on va dire, visuel choisi, enfin, du style de réalisation choisi sur la partie série télé. C'est important, en fait, d'installer cette ambiance-là pour pouvoir avoir de l'effet sur justement les ruptures comme ça. Et il y a quelque chose que je voulais ajouter aussi tout à l'heure, c'est que les épisodes sont assez courts. Donc au final, on va
comme
dire...
Comme Mandalorian, en fait. Hein.
Ouais, mais ces trois épisodes, en tout, ils doivent faire, je sais pas, 40 minutes, enfin peut-être un peu plus de 40 minutes, je dirais.
Tu veux dire chacun ou parce qu'en tout les
en tout c'est un peu plus de fin,
ouais, en tout c'est un petit peu plus, ça doit faire une heure, mais bref, je comprends ce que tu veux dire, une heure dix
et du coup le fait qu'on doive attendre une semaine, etc., je pense que c'est ça surtout qui doit créer peut-être de la frustration chez les gens qui sont peut-être un peu plus impatients, parce que si ça avait été tout d'affilée en mode binge, je pense pas qu'ils auraient forcément réagi en disant c'est un peu chiant, etc.
Ouais. D'ailleurs,
donc j'allais revenir à la scène du dîner. Il y a quelque chose en revoyant l'épisode où je me suis demandé si, le monsieur Hart qui s'étouffe, il s'étouffe alors qu'ils sont en train de questionner Wanda et Vision sur qu'est-ce qu'ils font là, d'où ils viennent, est-ce qu'ils ont des enfants, ce genre de choses là. Et on peut avoir l'impression avec le visage de Wanda que c'est elle qui provoque.
C'est genre elle arrête cette conversation avec
C'est ça, et que la femme s'adresse probablement à Wanda en lui disant arrête, mais en étant forcée de sourire, et parce qu'elle est dans son rôle forcé de série télé. Ça. Donc...
C'est vrai, j'avais pas vu la chose comme ça. Il y a tellement d'interprétations possibles dans tout ça, c'est hyper riche. C'est pas des interprétations. Je vais avouer un truc qui va frustrer les cinéphiles, mais c'est pas des interprétations dans des films qui sont tellement délirants que on peut trouver l'interprétation qu'on veut un petit peu en cherchant assez. Là, c'est des interprétations qui sont basées sur ce qui se passe vraiment, et je trouve que c'est suffisant. Ils ont trouvé mettre le curseur, quoi. Ils ont le bon équilibre. Mais justement, tu parlais des enfants. Je voulais, juste avant ça, tu parlais de la durée des épisodes. Kevin Feige, papa Kevin, notre maître à tous, a dit... j'aime pas ce genre d'adoration de créateur, mais il faut avouer qu'il a quand même fait très fort. En tout cas, le maître du MCU, on va le dire comme ça. Il a expliqué comment se passait le processus créatif des séries, et il disait qu'il concevait une histoire qui devait durer sur 6 heures environ, donc on va dire 2 ou 3 gros films, et il découpait ça ensuite en plusieurs épisodes en voyant où il pouvait mettre les ruptures. Et je trouve que c'est un processus créatif intéressant et qui est certainement plus propice à quelque chose de réussi que le fait de se dire on doit faire 10 ou 22 épisodes de telle durée, ce qui est de moins en moins le cas avec les services de streaming, mais j'ai trouvé ça intéressant à noter en tout cas. Et c'est comme ça qu'il marche.
Ça franchir du format forcé historique lié aux plages publicités, au timing que tu avais sur les méthodes de diffusion classiques, je trouve que c'est une très bonne chose, quoi. On sélectionne l'épisode comme on veut. Il n'y a pas de raison de faire toujours pile poil 45 minutes. Moi, je trouve ça très bien comme ça.
C'est sûr. Et ça se fait de plus en plus. D'ailleurs, les pubs sont excellentes aussi. On pourrait en parler. Mais je voudrais qu'on parle. Tu disais les enfants tout à l'heure. L'épisode 2, justement, là, il y aura peut-être plus de choix dans les moments marquants. Quel est le moment qui t'a le plus marqué dans l'épisode 2, qui se situe donc dans les années 60? Et pour ceux qui ne s'en souviennent plus, c'est l'épisode où ils font le spectacle de magie.
Ouais, alors il y a le For the Children qui forcément auquel je pense régulièrement, hein. Et puis maintenant avec le 3 on commence à voir où ça va, mais effectivement c'est là où c'est le moment où tu te rends compte, ah mais c'est vrai, For the Children, mais il y a pas du tout d'enfants en fait, dans cette ville là et ça donne cette sensation de bizarrerie.
On est un peu dans Twilight Zone, quoi. C'est comment en français
C'est sous la quatrième dimension, quelque chose comme ça.
On est vraiment dans la quatrième dimension. C'est genre le culte for the children. C'était un moment, effectivement, où on réalise un truc qui a été installé depuis le début. Et là, je sais pas, peut-être que ça dénote de mes biais ou de mes préférences, mais c'est mon moment préféré, c'est la fin aussi, et c'est vraiment le moment où Wanda voit l'apiculteur qui n'est pas un apiculteur de AIM d'ailleurs. Moi, je pensais que c'était peut-être lié à ça, mais visiblement non. Mais
je pense que c'était volontaire. Mais en tout
oui,
cas,
bien sûr. C'est une référence, mais. Ouais. Mais pour les fans, quoi, c'est pas dans l'histoire, je pense pas. Encore que, peut-être que c'est AIM qui est encore en vie et qui existe encore et qui est en train de manipuler tout ça. Mais oui, donc c'est le moment où elle redevient sérieuse et où elle dit no et où ça revient en arrière. C'est la cassure de la sitcom qui, là encore, comme dans le premier épisode, moi, m'a vraiment marqué parce que c'est là que tu te rends compte qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils vont quelque part et que. Enfin. Pas vraiment, en fait, pas dans celui-là, mais tu te rends compte qu'il y a quelque chose derrière cette réalité et tu te rends compte que Elisabeth Olsen, elle joue, tu vois. C'est pas juste qu'elle est comme ça dans la vie, c'est comme qu'elle est comme ça, parce que c'est tellement, ça enveloppe tellement tout que tu dis, ah bah oui, c'est normal. Mais là, ça casse et ça dit non, ça, c'est pas normal, c'est un truc étrange, là. Et ça te le montre. Et on pourrait parler, bien sûr, de la radio et tout.
Ouais, qu'elle a apparemment un contrôle sur cet univers-là, puisqu'elle décide de revenir en arrière à un meilleur moment.
Ouais, clairement. Et on pourrait bien sûr parler de la radio et du moment où Dottie se casse le verre dans le. C'est tellement. Et donc, il y a plus de moments bizarres comme ça, comme dans le premier épisode, que dans le premier, justement. On saupoudrait 3-4. Et on arrive au troisième épisode, qui est, je crois, le moins bon, j'ai trouvé, des trois premiers, même si je l'ai apprécié. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du troisième, celui qui est en couleur et avec la grossesse et la naissance de... Comment il s'appelle, Billy et Timmy ou Tommy?
Ouais, moi, je l'aime beaucoup.
C'est vrai?
j'aime beaucoup cet épisode. J'en ai parlé un peu autour de moi. Il y en a pas mal qui trouvent que c'est l'épisode, entre guillemets, de trop, façon série télé. Enfin, avec cette sensation de bon, on a compris, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les mystères? Je comprends ça. Je l'ai aussi un peu ressenti. Mais par contre, j'aime tellement en fait cette ambiance-là et du coup les gags un peu légers mêlés justement à cette inquiétude liée et aux bugs qui peuvent y avoir du coup dans la matrice. J'ai beaucoup apprécié cet épisode-là. Ouais. Donc ce que je retiens, c'est la discussion entre le voisin avec Agnès et Vision.
Ouais.
Et le mec qui coupe le muret avec son élagueur.
Et le moment où ils disent parce qu'on est tous, mais vous êtes tous quoi, putain. Et en plus, on se rend compte à quel point Vision est le seul qui semble se rendre compte vraiment des bizarreries et depuis le début.
Oui, là c'est flagrant hein, qu'il a une certaine autonomie, il se pose des questions un peu comme nous, il continue à rester dans son rôle, mais on sent là clairement, surtout, je crois que c'est son regard à la fin de l'épisode hein, qui montre qu'il est pas tout à fait à l'aise là et qu'il se demande un peu ce qui se passe. Il voit les bizarreries lui-même, donc il y a le médecin hein, qui finalement ne part pas en vacances, il y a le voisin qui coupe son muret, il y a plein de choses comme ça. Donc lui il commence à gagner un peu son indépendance et il commence à voir un peu tout ça.
C'est marrant ça d'ailleurs parce que évidemment Vision est mort dans le MCU et du coup il doit être sans doute une création de Wanda ou de cet univers, mais on pense que c'est Wanda évidemment qui a créé tout ça et elle a donc on se demande est-ce qu'elle l'a vraiment, elle lui insuffle son âme ou son quelque chose qui va rester, est-ce qu'ils sont en train de ramener Vision à la vie en fait? Et plein de questions, il y a des choses qu'on n'a pas évoquées non plus avec Agatha Harkness, qui est possiblement Agnès, ça a l'air assez clair, qui est une sorcière dans le MCU, une sorcière immortelle, qui a eu affaire à Wanda par ailleurs. Il y a les enfants qui sont nés, qui sont dans l'univers Marvel, effectivement, les enfants de Wanda, et de Vision d'ailleurs, c'est les enfants de Vision aussi, je ne suis pas sûr de ça.
Alors, Tu veux dire dans les comics?
Oui, dans le canonique des comics, est-ce que c'est les enfants de Vision
je crois que c'est... Non, je crois pas. Je crois que c'est... De toute façon, je crois que c'est des créations d'elle aussi dans les comics.
C'est ça, oui. Exactement. Je crois que c'est ça dans...
Et après, dans les comics, ils changent les origines assez facilement. Donc,
c'est vrai. de toute façon, sur la Earth 19999, tout peut être différent sur l'univers du MCU. Mais donc, c'est Wiccan et Speed, je crois, qui sont des personnages qui rentrent chez les Young Avengers après. Enfin bref, peu importe, ça pourrait être différent. Mais donc oui, pour ce troisième épisode, je crois que... Oui. Et puis, il y a bien sûr toute la partie avec Géraldine, etc., etc. Enfin bon, c'est...
Ouais, il y a un autre truc de notable, c'est la super vitesse de Vision qui est représentée de façon assez étrange, je trouve. Parce que, enfin, moi, ça ne faisait pas partie des pouvoirs de Vision que j'avais en tête, quoi. Et là, il court comme si c'était du coup Flash ou Quicksilver pour aller faire l'aller-retour récupérer le médecin. Je trouvais ça assez étonnant parce que j'avais pas forcément en tête moi qu'il allait spécialement en mode en courant comme ça super vite. C'était une représentation des pouvoirs que je trouvais rigolo, quoi.
Ouais. Et donc effectivement, les enfants qui pourraient être des manifestations, qui pourraient être le but en fait de toute cette opération, que d'une certaine manière Wanda serait manipulée pour manifester les enfants, et c'est pour ça qu'il dirait « for the children », etc., et tout le monde parle des enfants, et Agnès parle d'enfants tout le temps, enfin bref, ce qui
ça,
en même temps
ça,
est pas...
Tout le monde la pousse à avoir des enfants, etc.
Ouais.
Quoi.
Et en même temps, quand on parle d'enfants dans les années 60 ou 70, c'est un petit peu ce qu'on attendait d'une femme qui arrive dans un nouveau quartier. Tu vois, c'est peut-être même une raison pour laquelle c'est dans ce contexte qu'ils sont. Quand t'as un couple de jeunes mariés qui arrive dans un nouveau quartier, dans le quartier résidentiel aux États-Unis dans les années 50, à mon avis, il se passe pas beaucoup de temps avant qu'on commence à te parler des enfants vraiment, quoi. C'est genre, oh, alors c'est pour quand? Vous en voulez combien, machin? Ouais. Donc,
Déjà de nos jours, hein. Ouais. qu'on est marié encore plus.
Donc voilà, bon, écoutez, on a parlé des trois premiers épisodes. Pour les prochains, on parlera d'un épisode spécifiquement. On va enregistrer très vite l'épisode sur l'épisode 4, dont on parlera peut-être un petit peu plus longuement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont révélées. Entre-temps, est-ce qu'on va dire quelques mots quand même sur les raisons pour lesquelles on a fait cette émission, on a créé ce podcast, comment on l'envisage sur le moyen-long terme, et peut-être qui on est aussi, et je vais te laisser commencer, qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu aimes Marvel, tout ça, dis-nous tout.
Alors moi, donc j'aime Marvel un peu grâce au MCU. Hein. J'étais pas du tout comics avant voilà, je suis très vite rentré dans le truc avec Iron Man à l'époque, hein, et puis j'ai tout suivi depuis. Je me suis mis aux comics assez récemment, c'était il y a 3 ans maintenant que j'ai rattrapé un peu de retard, mais bon, il y a tellement de choses à lire que voilà, on se concentre sur les choses qui sont vraiment renommées. Pas non plus lire n'importe quoi, parce que bon, les comics, c'est quand même pas toujours excellent.
c'est un truc qu'on a en commun. Je crois qu'on n'a pas d'adoration pour les comics. Non. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont moyens. Et toi, tu n'avais même pas lu quand tu étais très jeune les comics Marvel ?
Non, j'ai toujours été manga à fond à 100% et 0% en comics, quoi.
T'es un peu plus jeune que moi, peut-être. Moi, dans les années 80, je lisais les revues Strange et, et les trucs comme ça en France, qui étaient des collections importées. Mais je me suis arrêté à ce moment. Mais oui, vas-y, continue.
Non, et puis, de toute façon, là, on va arriver à là où on en est. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi effectivement tout le MCU. Alors, je suis quand même un grand, assez amateur de cinéma. Et il y a quelque chose qui est un peu partagé en moi, c'est-à-dire que j'aime beaucoup aller au cinéma, voir des très bons films, etc. Et le MCU, du coup, là-dedans, comment il se place. Et je pense qu'il faut accepter que ça soit avant tout, on va dire, une série télé de très grande envergure. Et comme dans toute série télé, tu as des épisodes qui sont moins bons. Mais c'est pas grave, parce qu'ils font quand même avancer l'intrigue globale, et du coup tu prends quand même plaisir à retrouver l'univers, retrouver les personnages, donc voilà, de fil en aiguille, moi je voilà, je commence à accepter d'apprécier, on va dire, l'ensemble du MCU, tant pis si... Il y a des épisodes un peu moins bons. Et bah, du coup, on en arrive à là. Et WandaVision, moi, je suis très, très hypé avant la sortie. Plus je vois des bandes annonces des autres séries du MCU, et plus je suis content. Là, on a appris l'annonce hier ou avant-hier d'une série Black Panther.
Ah, mais je ne savais pas ça. Je n'ai pas vu passer la news. Il y a une série Black Panther qui va arriver.
Ouais, qui serait un drama, du coup, qui se passe au Wakanda. Et c'est par Ryan Coogler... qui avait fait le Black Panther. Voilà, donc moi je suis à fond dans le train de l'hype, comme on dit. je regardais tout à l'heure les sorties qui allaient arriver là, en série, en film. On en a pour tout, chaque mois de 2021, on aura quelque chose à voir. Donc voilà.
Ouais. Bah, c'est pareil pour moi, hein. Je suis vraiment dans la hype. Quand je vois ce qui arrive, je suis hyper excité aussi. Il y a un petit peu cette frustration qui aura peut-être été positive au final d'avoir dû quitter le MCU pendant plus d'un an, un an et demi. Et je suis comme toi, moi je trouve pas que tous les films étaient bien, loin de là. Il y en avait même qui étaient particulièrement mauvais. Et je trouve même que certains ne vieillissent pas particulièrement bien non plus. Je sais qu'il y a des gens qui sont... très très fan de l'ensemble, ou en tout cas qui n'accepte pas que certains sont vraiment mauvais, mais moi je trouve que des films comme Thor 2 par exemple est clairement un très mauvais film. Il y a, je sais pas, Iron Man 2 par exemple, je trouve vraiment pas bien du tout, etc., etc. Il y a des faiblesses très nettes, mais dans l'ensemble, ce qu'ils ont fait avec le MCU est absolument admirable. Et ça paraît évident aujourd'hui, mais il y a une dizaine d'années, ça l'était beaucoup, beaucoup moins. Et moi, je trouve que c'est une... En même temps, il y a un truc qui joue pour moi, c'est la validation de mon amour pour ces choses-là quand j'étais jeune et qu'on en disait beaucoup de mal, ce qu'il faut avouer était compréhensible. Mais je trouve qu'il y a aussi... une qualité qu'on n'admet pas, c'est qu'il y a aussi pas mal de profondeur dans les séries. Il y a, alors, c'est de la pop culture, hein, mais c'est pas de la grande philosophie, mais il y a des arcs narratifs, il y a des voyages pour des personnages, il y a des leçons à en tirer. Et je trouve que ça, c'est souvent passé sous silence, et c'est pas plus bête que d'autres éléments de pop culture qu'on accepte souvent. Un exemple que je donne souvent, et je vais pas passer deux heures dessus, mais je veux le mentionner, un exemple que je cite souvent, c'est Dumas et les Trois Mousquetaires, ou le Comte de Monte Cristo, qui étaient des séries, des feuilletons qui étaient littéralement publiés épisode par épisode, chapitre par chapitre, dans les journaux. Et à l'époque, ça aurait été, je pense, assez comparable à ce qu'est le MCU aujourd'hui ou n'importe quelle série. Alors, il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien, bien sûr, dans la pop culture, mais aujourd'hui, on considère que les Trois Mousquetaires ou le Comte de Monte Cristo, bah, c'est de la culture à part entière, de la pop culture de l'époque qui a une patine un petit peu différente, mais c'est vraiment de la culture noble. Et pour moi... Là encore, avec des épisodes plus ou moins réussis, dans l'ensemble, l'œuvre du MCU n'est pas moins noble que ces choses de pop culture qu'on avait il y a 200 ans. C'est pas parce que c'est plus récent que c'est moins noble. Il y a vraiment des choses intéressantes à garder de tout ça. Donc voilà, j'ai un amour qui est un petit peu peut-être romanticisé de cette œuvre. Et puis oui, la hype, la raison pour laquelle je voulais faire un podcast sur le sujet, c'est que bah moi je fais des podcasts depuis longtemps, hein. Si vous me suivez dans azeroth.fr, le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu et tout ça, bah quand il y a un sujet qui me passionne, j'ai envie d'en parler et j'ai envie de faire un podcast, c'est ce que je fais. Et on se moquait de moi parfois dans une autre émission que je fais, Positron, parce que je parlais de Marvel tout le temps dans les Positron, dans mes recommandations de trucs culturels. Et c'est vrai que bah maintenant j'ai le podcast juste pour ça. Comme on a des séries chaque semaine, il y a l'occasion de le faire. Donc, bah voilà, ça me donne l'opportunité de parler de cette passion, de cette fandom que j'ai. Et on verra, on sera pas forcément fan de tout, et on verra si j'ai le temps, si on a le temps de faire des épisodes chaque semaine, c'est le but, mais on verra ce que ça donne, on verra si on continue longtemps, mais en tout cas, l'idée là, c'est de, comme il va y avoir du contenu chaque semaine, et ben, on va en parler chaque semaine. On verra si on y arrivera.
On va essayer.
On va essayer. Et donc, je m'appelle Patrick Béja. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram, Facebook, etc. en tant que Not Patrick. Johan, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi?
Ben, juste sur Twitter, du coup, Johan T_.
Bah, on mettra le lien dans les notes de l'émission de toute façon. On vous fait de grosses bises et on se retrouve dans l'épisode suivant pour parler de l'épisode 4. Ciao à tous.
Ciao.
Ah merde, j'ai oublié de dire un truc. Je voulais quand même mentionner Les Clairvoyants, qui est le podcast, le papa de tous les podcasts francophones sur ce genre de sujet. Et on envoie un gros bisou quand même à Faskill, Fox et Archeon, qui font un podcast de grande qualité, un petit peu moins fréquent quand même. Donc c'est un petit peu, eux, c'est les films du MCU peut-être, et nous, on est les petites séries qui arrivent plus régulièrement. On va dire ça comme
c'est
ça.
C'est à cause d'eux qu'on fait le podcast, hein, parce qu'ils en font pas assez souvent, donc
exactement.